Conduite à risque.
Addiction.
Téléphone portable.
Consommation d'écran.
Alcool. Drogue. Tabac.
Jeunesse.
Parents.
Famille.
Prévention. Ateliers, conférences, rencontres, formations, soutien aux associations.
Suivez les actions de la communauté de communes des Cévennes gangeoises et suménoises dans son programme de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Dans ce magazine, nous partons à la découverte des actions et des grands principes du CODES 34, le comité départemental d'éducation pour la santé, avec son chargé de mission santé, Iliès Carbouche, que nous avons rencontré un matin dans les locaux de l'Agantique à Ganges, avant une session de sensibilisation avec les animateurs de l'APART.
Moi, ce que je dis généralement, pour synthétiser un petit peu ce poste qui est assez riche, assez dense en termes de mission, c'est conception, animation et évaluation de dispositifs en promotion de la santé.
Et donc là, dans le cadre du dispositif 1000DK, vous êtes en partenariat avec la communauté des communes Cévennes gangeoises et suménoises. Le premier volet de cette année, c'était assez axé sur la jeunesse et notamment les écrans.
Tout à fait. Et c'est vrai que nous, la spécificité du code et décodes d'une manière générale, c'est de pouvoir agir auprès de tout type de public sur toutes les thématiques de santé, qu'elles touchent le bien-être au niveau physique, psychologique et ou social. Donc c'est vrai que les écrans, les nouvelles technologies, les usages numériques, ça fait partie de nos domaines d'intervention et notamment dans le domaine plus large des conduites addictives.
Je crois qu'il y a au moins eu 5 axes sur lesquels vous êtes intervenu cette année.
Alors nous, on est intervenu sur la création et la diffusion de supports de communication. Donc voilà, la réalisation d'affiches, parce que c'est vrai que pour nous, les messages en termes de promotion de la santé passent plus facilement lorsqu'ils sont soit réalisés par les personnes concernées, soit sous une forme ludique, évidemment participative. Il y a la mise en place d'une formation auprès des éducateurs et éducatrices de la petite enfance et animation d'un atelier ludique lors de l'événement sportif qui était prévu à la base en avril 2022, Journée des 5 ballons, qui a eu lieu justement le week-end dernier, et un café parentalité, justement sur cette thématique. Ce qui est intéressant, c'est que là, je viens de citer les projets de l'année dernière et on a de nouveau des projets cette année donc qui vont être axés autour de la pair-éducation en collège-lycée, donc c'est-à-dire avoir un aspect communautaire, donc de l'éducation par les pairs, c'est-à-dire que les personnes concernées, les jeunes, vont délivrer des messages aux personnes concernées, donc les autres jeunes. Et le but, c'est de pouvoir les accompagner au mieux pour pouvoir justement rassembler les informations, créer des supports qui puissent convenir au mieux justement au type de public visé. Il y a aussi la mise en place de groupes PRODAS. PRODAS, c'est un programme de développement affectif et social qui nous vient du Québec, qui est mis en place depuis de nombreuses années là-bas et qui a été importé en France, qui permet de travailler autour des émotions, notamment à travers des cercles de parole. Et après, c'est vrai que c'est un outil qu'on utilise aussi dans d'autres projets et qui est très intéressant pour parler justement de la thématique des conduites addictives. Et moi-même, je fais une sensibilisation des professionnels et la co-construction d'une action de prévention par et pour les jeunes qui sont reçus ici à l'APART. Voilà, donc la partie jeune de la Gantique.
C'est quoi justement l'approche et les méthodes? On sait que c'est un âge où on n'a pas forcément envie d'écouter des discours moraux de la part d'adultes. Justement, vous essayez un petit peu de changer ces rapports-là?
Mais je vais rebondir justement sur ce terme des discours moraux. Le but, nous, c'est justement de s'éloigner de la morale. En fait, notre objectif, c'est de délivrer une information fiable et objective, mais aussi développer la pensée critique des jeunes, donc ils puissent aller chercher eux-mêmes et elles-mêmes l'information et devenir acteurs, actrices de leur santé, de leur bien-être. Donc après, il peut y avoir plusieurs portes d'entrée à travers le prisme de la santé globale. C'est ça aussi qui fait la force d'une structure comme la nôtre, c'est qu'on n'est pas étiqueté dans une thématique en particulier, ce qui pourrait éloigner certaines personnes, pourrait faire peur ou pourrait participer à la culture du déni, notamment sur les conduites addictives. Après, on essaie d'avoir une approche la moins frontale possible. Donc, on s'adapte aussi à l'environnement dans lequel on va s'investir et on fait en sorte que ce soit de la co-construction. Donc, il y a des réunions préparatoires qui sont faites avec les équipes sur place pour voir s'il y a effectivement des besoins identifiés et adaptés vraiment adapter notre posture. L'adaptabilité, c'est quelque chose de très important, notamment quand on travaille avec tout type de public et comme vous le rappeliez, particulièrement avec les jeunes.
Alors ça ressemble à quoi, par exemple, ces ateliers de fabrication de supports de communication? Je crois que c'était plutôt sur l'usage des écrans, la thématique abordée, ou peut-être pas, mais...
Alors pas spécifiquement, en tout cas sur moi, l'atelier, la partie que j'anime et dont je m'occupe. Mais ce qui est intéressant, voilà, pour rebondir sur l'adaptabilité, c'est qu'on avait imaginé avoir des séances assez cadrées, assez précises, voilà, de 2 heures, des séances avec les pros et des séances avec les jeunes. Et en fait, quand on se confronte à la réalité de terrain, on voit bien qu'en fait, il n'y a pas de groupe captif, c'est-à-dire que les jeunes ici, c'est sur de la libre adhésion. Donc c'est très intéressant comme type d'approche, mais du coup ça nous permet aussi nous de faire un pas de côté et de pouvoir s'adapter au mieux, donc de transformer ces espaces qui étaient prévus comme des séances assez classiques, je dirais, plutôt en permanence du coup de présence, parce qu'il faut déjà se faire connaître auprès des jeunes, établir un lien de confiance. Parce que sur ce genre de thématique, mais comme sur d'autres, hein, par exemple, quand on aborde la vie relationnelle, affective et sexuelle, évidemment, on n'arrive pas de manière frontale en abordant le sujet. Il faut gagner la confiance et qu'il y ait une confiance réciproque pour pouvoir aborder des sujets de l'ordre de l'intime. Et du coup, là, c'est ce qui est fait en ce moment. Je suis en plein dans le projet. J'y étais encore hier soir. Et voilà, de pouvoir créer des liens, de pouvoir... des choses toutes simples, hein, se remémorer les noms, les prénoms, pouvoir parler des pratiques des jeunes, qu'eux-mêmes puissent en parler de manière, comment dire, de manière un peu diffuse. C'est-à-dire qu'on va prendre un temps convivial, on va parler un petit peu des pratiques, mais sans avoir le but d'orienter directement la conversation. Voilà, il faut vraiment apporter de la fluidité pour être sûr d'être dans la congruence et d'avoir une sincérité au niveau de notre intervention.
Et après, justement, une fois que la parole est libérée, que peut-être des situations problématiques apparaissent, comment est-ce qu'on amène peut-être des pistes de solutions? Est-ce que justement vous attendez que ça vienne des jeunes? Est-ce que vous amenez du contenu quelconque? Ou par exemple là ils vont devoir créer leur contenu eux-mêmes? Comment est-ce qu'on définit ensemble ça?
Alors déjà la base de toute intervention, c'est de questionner les représentations. Chacun, chacune a des représentations, notamment sur cette thématique, hein, parce que quand on parle de conduite addictive, on pense très souvent aux produits psychoactifs. Néanmoins, là, sur ce type de jeûne, on n'est pas sur ce genre d'usage ou de consommation. On va plutôt être sur l'accès aux usages numériques, donc en lien effectivement avec les écrans, les réseaux sociaux, les fausses informations, donc tout ce qui peut être en lien avec cette thématique. Mais il est toujours possible aussi d'avoir une approche de prévention vis-à-vis des autres types de conduite addictive, notamment des produits psychoactifs tels que le tabac, sous ses nouvelles formes, hein, c'est-à-dire cigarettes électroniques, puffs également, qu'on retrouve de plus en plus chez les jeunes dès le collège. Donc vraiment, on est sur ce type de public-là, et le but, c'est de questionner les représentations et élargir, c'est-à-dire bien se rendre compte que quand on parle de conduite addictive, on parle des addictions ou des potentielles addictions au sens le plus large possible. Et en faisant un lien aussi avec le stress, avec l'anxiété. On dit souvent que une société anxiogène peut devenir une société addictogène. Donc voilà, il y a cette relation aussi qui peut être questionnée sur la gestion des émotions, la gestion du stress, la conscience de soi, etc. En fait, on travaille véritablement les compétences psychosociales et on fait en sorte que ces jeunes puissent les visualiser, puissent aussi les développer par la suite.
Ils ont une ressource qui est quand même incroyable, malgré tout, c'est Internet et les écrans. Donc ça peut paraître paradoxal d'aller dessus pour s'informer, mais ça peut marcher aussi.
Bien sûr, c'est une source vraiment presque intarissable d'informations. Et c'est pour ça que je disais, le but, c'est qu'ils puissent avoir accès à une information fiable et objective. Donc voilà, en développant la pensée critique, en développant la pensée créative, voilà, de faire en sorte que de leur donner les clés pour pouvoir s'autonomiser, se responsabiliser au niveau de leur pratique. Après, la forme de l'outil, il faut que ce soit un outil qui est adapté aux jeunes de leur âge, et qui de mieux que les jeunes et les personnes directement concernées pour justement avoir une connaissance et un avis assez fiable justement sur un outil qui répondrait au mieux aux besoins identifiés. Pour avoir travaillé sur d'autres projets qui sont un peu de ce type, hein, ou que ce soit sur de l'éducation par les pairs, que ce soit sur de l'autosupport ou de la santé communautaire, c'est vrai que ça peut prendre plusieurs formes différentes. Ça peut aller soit sur le terrain du numérique, puisque évidemment, il ne faut pas se leurrer, c'est un terrain qui est bien occupé par les jeunes. Ça peut prendre des formes plus classiques, hein, de brochures, de stands. Quel que soit l'outil, c'est quelque chose qu'on peut accompagner parce que par la pluralité de nos missions, on a justement affaire à plusieurs types d'outils, à créer plusieurs types d'outils, et on utilise les outils les plus variés possibles pour éviter que potentiellement ils puissent s'ennuyer pendant les interventions. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit dynamique, ludique, participatif.
Et donc, idéalement, après, vous créez un groupe de jeunes de sensibilisation et de prévention sur place qui va lui-même continuer à diffuser la bonne parole.
Exactement, oui, voilà, le but, quand je parlais d'autonomisation, c'est pour ça, en fait, qu'on travaille conjointement avec les professionnels qui vont encadrer les jeunes et les jeunes eux-mêmes. Le but, in fine, c'est vraiment de pouvoir donner les clés, les ressources nécessaires pour que, dans le futur, s'il y a des besoins qui arrivent, des besoins identifiés, qu'ils puissent être à même d'y répondre, simplement et efficacement.
There's a whole crowd of people out there who need to learn how to do the scar.
Don't ask questions, you don't wanna know. Learn my lesson, way too long ago. To be talking to you, Belladonna. Should've taken a break, not an Oxford comma. Take what I want when I wanna, and I want you. Bad, bad news, one of us is gonna lose. I'm the powder, you're the fuse. Just add some friction. You are my strange addiction. You are my strange addiction. My doctors can't explain my symptoms or my pain. But you are my strange addiction.
I'm really...
Ilyes Carbouche nous éclaire maintenant sur ces fameuses compétences psychosociales, une notion centrale pour comprendre les actions au CODES 34.
Oui, alors ces compétences psychosociales, elles s'articulent sur trois thèmes principaux qui vont être les compétences émotionnelles, donc tout ce qui va concerner la gestion du stress, la régulation émotionnelle, le fait de pouvoir appréhender, comprendre ses ressentis émotionnels, mais aussi ceux des autres, hein, à travers l'empathie ou les postures au niveau émotionnel. Les compétences sociales, tout ce qui va avoir un lien avec la communication, la relation à l'autre, l'habileté justement dans ces relations, l'efficacité en matière de communication, et tout ce qui va concerner la conscience de soi. La conscience de soi, l'apprentissage, la connaissance de soi, de ses goûts, de ses limites, de pouvoir s'affirmer sans s'imposer, sans agresser les autres. Donc il y a aussi un lien avec la communication ou avec les émotions. Le principe de ces compétences, c'est qu'elles sont transversales. Il y a vraiment des passerelles entre chacune et elles peuvent se nourrir les unes les autres. Et ce qui permet d'avoir une base commune pour beaucoup de nos interventions en matière de santé. Parce que le but de ces compétences psychosociales, c'est de pouvoir avoir une capacité à réagir face aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, et de gagner en capacité justement dans une société qui peut être, on peut être sujet au stress et à l'anxiété, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir réagir efficacement en pouvant favoriser son bien-être, qu'il soit physique, mental ou social. Là, particulièrement sur les conduites addictives, ça va être de pouvoir s'auto-évaluer, de pouvoir apprendre, acquérir des capacités au niveau de la gestion émotionnelle, parce qu'on voit bien qu'une des réponses apportées au stress, et particulièrement dans l'urgence, ça va être d'avoir des conduites dites addictives, en tout cas à risque addictif. Ce qui ne veut pas dire que c'est systématiquement le cas, mais qui dit addiction dit forcément qu'il y a eu usage. Donc après, le but, c'est aussi de pouvoir donner des clés pour comprendre les différents types d'usage. Comment on passe d'un type d'usage à un autre ? Comment, quels sont les critères qui définissent une addiction ? par rapport à des conduites addictives, parce que c'est vrai que il y a l'abstinence, il y a l'usage simple, et ensuite il y a l'usage avec des troubles qui soient légers, modérés ou sévères. Donc il y a des critères précis, et essayer aussi de distinguer la dépendance de l'addiction. On a tendance, hein, d'une manière globale, à un petit peu mélanger les concepts. Et je pense que pour mieux appréhender justement ses propres pratiques, hein, pour les jeunes, il faut avoir des concepts clairs. Et justement, ça passe par le questionnement des représentations.
Oui, ça fait un peu peur, ou en tout cas, ça peut être stressant de se dire « Ah zut, je suis en fait dans une conduite dépendante ou dans une conduite addictive ». C'est déjà un gros cap, je pense, de l'admettre.
Oui, potentiellement, tout le monde est potentiellement dans des conduites addictives ou à risque addictif. C'est vrai que ne serait-ce qu'être sur son téléphone, ça peut être un risque. Après, on n'écarte pas le danger. Le danger existe. Et après, il y a les risques qui peuvent arriver et les risques peuvent provoquer des dommages. Donc, c'est vraiment expliquer aussi cette trajectoire et cette séparation entre ces différents concepts et pourquoi on intervient soit de manière préventive, donc en amont, soit sur de la réduction des risques, c'est-à-dire au moment où ça se passe, lorsqu'il y a usage, et ensuite il y a un troisième volet, le soin, lorsqu'effectivement il y a eu des troubles avérés qui donnent lieu du coup à des problèmes au niveau somatique, au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau social, voire judiciaire pour certaines pratiques.
Voilà, pour revenir loin de ces problématiques-là, mais donc à la racine, on a parlé des formations d'assistantes maternelles sur cette thématique-là. Qu'est-ce qu'on peut justement faire comme travail avec des enfants de cet âge-là ?
Eh bien, ne serait-ce qu'un travail à partir des émotions. Vraiment, c'est quelque chose de central, les émotions, l'estime de soi, la capacité à pouvoir faire des choix éclairés en matière de santé, ça peut s'apprendre dès le plus jeune âge. Par exemple, on intervient dans des écoles maternelles parfois et on commence à distiller certaines choses au niveau de l'alimentation, au niveau du sommeil. Donc après, sur les conduites addictives, ça peut passer justement par le rapport à l'écran, par la valorisation des activités sans écran, et puis par la prise de conscience, le fait de s'interroger, de s'auto-évaluer sur ses propres pratiques, et évidemment en s'écartant le plus possible du jugement et de la stigmatisation. Et le but, c'est de voir la santé sous un angle favorable, positif, et comme une ressource de la vie quotidienne.
Oui, d'ailleurs, c'était l'esprit qu'on a pu remarquer dans ces cafés des parents, où le but était juste d'échanger sur nos pratiques, chacun différent, sans jugement, mais ça permet de se rendre compte de la diversité des modes d'approche qu'on avait chacun. Ça permet déjà de se remettre en question et de réfléchir à éventuellement changer des choses.
Oui, on n'a pas prétention à apporter des solutions toutes faites, puisqu'il y a autant de potentielles solutions que de pratiques, que d'usages, et il y a beaucoup de facteurs. En fait, ce que peut-être les gens ignorent d'une manière générale, c'est qu'il y a énormément de facteurs en jeu dans les conduites addictives et dans l'addiction. Donc voilà, il va y avoir l'usage en tant que tel. Donc par exemple, si on prend le produit, il va y avoir le produit. Donc la quantité, la qualité, le type de produit, la famille de produits, son mode d'action au niveau du système nerveux central, au niveau du cerveau, etc. Donc le produit, il va y avoir l'individu. Quel est son état physique, son état psychologique, son vécu, son expérience vis-à-vis de ce produit ou de cette pratique. Son environnement aussi, ça c'est le troisième point, l'environnement, le contexte, dans quel lieu ça va se faire, avec quel entourage, seul, accompagné. Donc voilà, produit, individu, contexte, tout ça, ça fait partie du schéma multifactoriel. Et ensuite, il y a des facteurs de vulnérabilité, etc.
Bon, le champ des recherches et des travaux est vaste alors ?
Oui, très très vaste, et c'est à la fois passionnant parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ça nous concerne potentiellement tous et toutes, ou alors des personnes de notre entourage. Et c'est vrai que, comme disait Nicole Maestrachi, qui était présidente de la MILT, l'ancêtre de la MILT-DK, il n'existe pas de société sans drogue. Donc après, derrière drogue, on peut mettre les conduites addictives, parce que ça s'est élargi. C'était un champ assez fermé, assez cloisonné avant. La tabacologie, l'alcoolologie, la toxicomanie. Et du coup, on s'est rendu compte qu'on pouvait rassembler, qu'il y avait des facteurs justement communs Quand on parle d'addiction au sport, aux écrans ou aux produits, on a des mécanismes qui sont justement similaires au niveau de notre cerveau, au niveau du système de la récompense, de la libération de dopamine. Donc vraiment, ça touche aux neurosciences, ça va toucher aussi parfois à la sociologie, hein, l'étude des sociétés, des consommations. Donc c'est vraiment pluridisciplinaire. Je pense qu'en ça, c'est intéressant. Et puis, on a une certaine couleur aussi au Code S34, historiquement, sur cette thématique. Et c'est vrai que nous, on aime beaucoup la pluridisciplinarité, hein, ça se ressent aussi au niveau de notre équipe. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant à regarder, à animer et dans lequel évoluer d'une manière plus générale.
C'est une drogue aussi.
Alors j'irai pas là. Il faudrait déjà qu'on ait le temps de définir ce qu'on met derrière le mot drogue. C'est vrai que des fois, il y a un gap, hein, entre ce qui peut être constaté sur le terrain, la manière que vont avoir les gens de vivre les choses, et les études ou tout ce qui va venir légitimer en fait ce que ressentent et vivent les personnes. De toute façon, moi, je pars du principe que souvent, ce sont les usagers, les personnes concernées qui apprennent beaucoup aux personnes professionnelles, justement, de par leur expérience et de par leur vécu.
Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir transmis tout ça, à nous aussi.
Avec plaisir. Merci beaucoup.
Pour suivre les actions passées ou à venir de la communauté des communes gangeoises et suménoises, rendez-vous sur le site cdcgangesumaine.fr dans l'onglet 1000DK et découvrez toute la palette des actions d'éducation à la santé menées par le CODES 34 sur son site codes34.org.
Magazine réalisé par Radio Escapade dans le cadre des programmes d'action de la communauté de communes des Cévennes gangeoises et suménoises
et de la 1000DK, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives.